Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs, partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Grande voyageuse, Jade Mieton a arpenté l'Afrique subsaharienne, sa destination favorite de long en large. Jade a décidé de partager ses découvertes et de mettre ses talents de réalisatrice au service de différents documentaires pour faire connaître les peuples du Sahara et démystifier les dangers apparents. Rencontre avec Jade au Grand Bivouac. Jade, qu'est-ce que tu fais là ?
Bah déjà parce que j'habite pas très loin. Donc je crois que même j'étais là pour dès les premières éditions en tant que spectatrice. Et un jour, je suis passée de l'autre côté du miroir en tant que réalisatrice et invitée.
Qu'est-ce qui fait qu'on se lance dans la réalisation ? C'était parce que tu t'es retrouvée ici, inspirée par tout ce que tu voyais ou...
Non, c'était toujours très intéressant de voir, toujours passionnée des documentaires, des films des autres, de la découverte, du partage aussi. Après, non, moi, mon parcours, c'est que j'ai commencé à voyager dans le Sahara quand j'étais adolescente. Et c'est surtout ces voyages-là qui ont déclenché en moi l'envie de me rapprocher de ces populations nomades. Voilà, plus je voyageais là-bas, plus je les connaissais, j'apprenais quelles étaient leurs difficultés, leurs contraintes, leur mode de vie. Donc, je me suis un peu passionnée pour tous ces peuples nomades, particulièrement les Touaregs d'ailleurs. Après, j'ai cherché un moyen de leur donner la parole. Et le film s'est imposé un peu comme ça, parce que je ne sais pas dessiner, je n'écris pas. Enfin, voilà, disons que le documentaire me paraissait être un bon moyen pour donner la parole aux gens sur place et pour partager ça au public ici.
Qu'est-ce qui t'a amené dans le Sahara adolescente ?
Un voyage assez classique, assez banal, on va dire, à l'époque, c'était il y a 15 ans, donc le Sahara, c'était quand même quelque chose d'assez couru. Il y a beaucoup d'organismes de voyage qui proposaient des voyages là-bas. Donc, voilà, moi, je suis d'ici, donc je suis des Alpes. J'ai beaucoup marché dans les montagnes autour de chez nous et c'est parti pour aller faire un trek dans le désert, histoire de découvrir un peu et de marcher dans leurs montagnes à eux. Donc c'est vraiment en touriste, hein, touriste. Après j'ai rencontré des gens là-bas, c'était du côté de Djanet, dans le sud algérien. J'ai rencontré des gens là-bas, j'y suis retournée, après je suis allée dans d'autres pays à côté. Et au fur et à mesure des voyages, on se crée un peu une deuxième famille. Et voilà, le désert appelle le désert et on est un peu mordu, quoi. Quand on a connu ça, on a envie d'y retourner et chaque année on n'attend qu'une chose, c'est pouvoir enlever ses baskets et remettre les orteils dans le sable, quoi.
Donc toi, c'est vraiment la partie géographique du monde qui t'a appelé, réappelé, rappelé encore derrière. Tu t'es pas baladé dans les montagnes himalayennes, dans les steppes de Mongolie ou dans les temples japonais ?
Je me suis baladée ailleurs, dans d'autres endroits du monde, vraiment en tant que touriste, en Islande, en Ouzbékistan, au Tadjikistan, sur l'île de la Réunion, enfin, toujours avec ce prétexte du trek et de la marche. C'était des voyages absolument merveilleux, mais voilà, grâce à la connaissance que j'ai réussi à avoir au fur et à mesure des années sur le milieu du Sahara, des gens qui me font confiance avec les années, tout ça, c'est sûr que je suis aujourd'hui réalisatrice de documentaires au Sahara et je ne pense pas faire des documentaires sur d'autres coins du monde. Je laisse ça à d'autres passionnés qui, eux, se sont appropriés ces terres-là, quoi. Je me dis que le monde est grand et... Je pense aussi qu'il faut être aussi un petit peu légitime pour parler de quelque chose ou d'un milieu dont on n'est pas issu. Moi, je ne suis pas Touareg, je ne suis pas saharienne et j'avais besoin de beaucoup de connaissances avant de pouvoir me dire, voilà, je vais parler pour eux ou je vais leur donner la parole, mais je vais me permettre de parler de leur vie alors que je ne suis pas l'une d'entre eux, quoi. Et donc ça, il m'a fallu du temps et beaucoup de connaissances. C'est pour ça que je pense pas qu'un jour je pourrais faire un documentaire sur un autre sujet, parce que les autres sujets, j'y connais rien.
Jade, raconte-moi ou raconte-nous le désert.
Ah, alors il y a un proverbe Touareg cité, recité, re-recité, qui dit que le désert ne se raconte pas, il se vit. Alors, moi, je l'ai tellement entendu que je trouve la formule un peu bon, voilà. Mais c'est vrai, c'est une ambiance particulière. Je pense que tous ceux qui ont l'habitude de marcher en montagne ressentent ça aussi. C'est une introspection de soi, c'est une redécouverte de soi-même et d'un nouveau milieu aussi par la même occasion. Mais c'est quelque chose qui va au-delà de la découverte d'un endroit. Ou... C'est assez compliqué, mais je vous conseillerais de vous inscrire à un voyage et d'aller voir ce qui se passe là-bas pour juger par vous-même.
Ouais, c'est pas la réponse que j'attendais. Je voulais que tu me recrées une dimension visuelle ou que tu nous crées une dimension visuelle et que tu nous transportes à travers le son et le timbre de ta voix dans cet univers aussi fascinant que le désert, apparemment.
Ouais, mais après, j'ai peur de tomber dans des choses assez banales et répétées déjà. Le silence, l'immensité. Moi, ce que j'aime là-bas, c'est que ça redéfinit sa place. J'ai l'impression que l'être humain, là-bas, il retrouve sa place, quoi. Sa place de petite chose insignifiante, en fait. Je sais pas, c'est une autre dimension, quoi. J'ai l'habitude de dire qu'on ne change pas de pays quand on va dans le Sahara, on change de planète. C'est vraiment un peu ça, quoi. C'est une atmosphère différente, une ambiance différente, qui n'est absolument pas vide et dépourvue de vie, comme on a tendance à se représenter le désert. Souvent, parce que je suis aussi un peu photographe, quand je montre mes photos aux gens, ils disent « Ah, il n'y a pas que du sable et... !» Non, non, il n'y a pas que des dunes de sable. Il se passe plein de choses là-bas, à tout niveau. Et au-delà de la beauté, des images, du désert, de la marche, avec tout ce que ça peut représenter, voilà, c'est aussi toute une population qui a des difficultés, qui vit au gré des aléas, des vagues de touristes qui viennent, qui repartent. Voilà, c'est vraiment quelque chose de particulier. En tout cas, c'est un peu ma drogue aussi à moi. Disons que j'en ai besoin, quoi. C'est vraiment quelque chose... j'ai besoin d'y retourner. C'est mon petit pèlerinage, quoi. Mais j'imagine comme quelqu'un qui a l'habitude de randonner ici et qui a besoin le dimanche d'aller s'évader, de se retrouver seul, de se retrouver avec soi-même et de se retrouver avec la nature aussi.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Comment est-ce qu'on devient réalisatrice ? C'est un métier qui fait rêver beaucoup de jeunes.
On le devient, je sais pas, même moi je me dis tiens, est-ce que je peux dire oui, bonjour, je m'appelle Jade et je suis réalisatrice. À quel moment est-ce qu'on l'est ? Est-ce que c'est au moment où on gagne sa vie avec son activité ? Est-ce que c'est au moment où déjà on a sorti un film ? Je sais pas trop. Néanmoins, bon, après de manière plus théorique, j'ai suivi une formation, j'ai fait une école de cinéma à Lyon qui m'a apporté les bases. Et après, je ne fais pas mes films toute seule, je suis avec toute une équipe aussi de professionnels, un monteur, un ingé son, enfin voilà, tout plein de petites mains qui m'aident aussi à mettre ça en place. C'est un métier quand même, et je pense qu'il y a une grosse différence entre des films de souvenirs de vacances et un documentaire. C'est deux travaux quand même différents, qui ne demandent pas les mêmes compétences et qui ne sont pas forcément données à tout le monde. Tout le monde peut faire un petit film de son retour de vacances. Maintenant, voilà, un documentaire en tant que tel, c'est quand même énormément de travail de préparation, contrairement à ce qu'on pense. Un travail de tournage, des fois un peu compliqué, enfin en tout cas moi, dans les régions dans lesquelles je vais tourner. Et puis derrière, la phase de post-production, qui est aussi techniquement, qui demande des compétences, un apprentissage. Voilà, on ne fait pas ça comme ça. Donc, mais bon, après, comme tous les autres métiers, j'imagine, hein, même tous les métiers artistiques et tous les autres métiers, bien sûr que ça demande des formations, des compétences. Et après, bien sûr, le terrain et l'expérience, quoi, c'est sûr.
On va aller sur le terrain, donc parle-nous de ton dernier documentaire.
Alors, mon dernier doc, qui s'appelle « De l'or dans la poussière », il traite de l'activité de l'orpaillage au nord du Niger, spécifiquement, mais aussi dans tout le Sahara, parce qu'en ce moment, il y a une véritable ruée vers l'or qui s'opère dans tous les pays du Sahara Sahel. Donc quelque chose quand même de très important et qui méritait qu'on en parle, quoi, parce que ça fait vivre beaucoup de gens. Et on peut même comparer ça à ce qui se passait aux États-Unis il y a quelques temps. Donc.
Et donc là, en ce moment, il y a une ruée de l'or qui est en train de s'opérer vers le Sahara, dans le désert.
Tout à fait. Et au fur et à mesure des différentes opportunités, au fur et à mesure de la découverte de nouveaux gisements, que ce soit à l'intérieur d'un pays ou même à l'intérieur de toute cette bande sahélo-saharienne, il y a des populations Enfin, il y a énormément de gens qui se déplacent justement en fonction des nouvelles découvertes de gisements pour aller voir s'il n'y a pas moyen d'aller gagner sa vie et de trouver une pépite ou deux pour se faire un peu de sous, quoi. Sur le dernier site, en l'espace de... On a découvert le site. Quelques jours après, il y avait plusieurs dizaines de milliers de personnes qui avaient débarqué avec leur pelle et leur pioche, quoi. Donc c'est quelque chose d'extraordinaire. Et de terrifiant aussi d'un autre côté. Parce que qui dit orpaillage, dit utilisation de produits chimiques, dit dynamitage du sous-sol, dans des zones où il y a des gravures, des peintures rupestres, des fossiles de dinosaures, dans des zones extrêmement riches. Donc évidemment, avec tous les dangers environnementaux, sanitaires, que ça comporte. Chez une population, bien sûr, qui ne prend absolument pas la mesure de tout ça, bien évidemment, parce qu'ils sont dans un gain immédiat et pas dans le là-bas demain n'existe pas.
Comment ça s'est mis en place? Pourquoi tout d'un coup il y a eu cette ruée vers l'or? Il y a à un moment donné quelqu'un qui a trouvé une pépite ou comment? Quel est le point de départ?
Eh ben, à chaque Touareg ou à chaque personne à qui vous allez poser la question, chacun aura sa version. Mais officiellement, oui, c'est le démarrage, le boom en tout cas, a été au Soudan. On dit dans les années 2010-2012, en tout cas, ça a été le démarrage. Et effectivement, voilà, c'est un peu la rumeur, c'est un peu ce qu'on entend. Quelqu'un aurait trouvé une pépite alors qu'il était en train de passer des migrants dans le désert du Sahara. Il faisait passer les migrants en Libye et puis il s'est dit « Ah tiens, qu'est-ce que c'est ce caillou jaune-là qui brille ?» Et il a découvert de l'or. Voilà, c'est un peu la rumeur. Donc une personne aurait découvert quelque chose qui aurait attiré une deuxième et une troisième, sachant que là-bas, de toute façon, il n'y a pas d'autre perspective de travail ou d'activité quelconque pour les gens qui sont sur place. Ils se sont dit, bah, chic, 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 une nouvelle manne économique qui nous tombe un peu du ciel. Donc les gens ont l'habitude de dire là-bas que c'est un don de Dieu, c'est une redécouverte magnifique. Et voilà, c'est un peu parti comme ça. Après, ils se sont dit, tiens, si on a au Soudan, il y en a peut-être à côté. Tiens, si on a dans les montagnes du Tibesti au Tchad, c'est qu'il y en a peut-être aussi dans les montagnes de l'Aïr au Niger. Donc petit à petit, les gens se sont déplacés, sont allés voir, ont commencé à prospecter, ont acheté un détecteur de métaux et ils ont commencé à trouver de l'or. Et
donc c'est pas un mythe, quoi, il y a vraiment de l'or.
Les premières pépites ont été même découvertes à 30-40 cm au-dessous du sable. Il suffisait à main nue, même sans matériel quelconque, de creuser un peu, de farfouiller un peu, et là on déterrait des pépites. Il y a une histoire sympa d'une dame à Niamey, donc là on est en pleine capitale en ville, qui a creusé une fosse septique dans son jardin. En creusant la fosse septique, boum, grosse pépite. Elle a racheté sa maison, elle est propriétaire maintenant. Donc voilà, en fin de compte, de l'or, il y en a absolument partout dans cette chaîne. Du Soudan au Sénégal, d'est en ouest, il y en a partout. Donc dans chaque pays, les gens qui n'ont pas d'autres activités économiques se sont improvisés orpailleurs. Et quand je pose la question aux gens, on en parle dans mon film d'ailleurs, il y a tellement d'or qu'on est parti pour les exploitations pour des dizaines d'années à venir. C'est quelque chose qui va prendre énormément d'ampleur. Et en tout cas, d'aller interroger la population locale pour savoir qu'est-ce qu'elle en pensait, si c'était plutôt une bénédiction, plutôt une malédiction, est-ce que ça leur apportait quelque chose, est-ce que c'était bénéfique pour eux, est-ce qu'ils allaient pouvoir vivre grâce à ça maintenant? Comment ils envisageaient l'avenir grâce à cette nouvelle activité, voir comment eux se positionnaient. Et d'ailleurs, dans mon film, ce sont les témoignages de 4 personnes autour de leur paillage. Je n'interviens pas, je leur laisse la parole et je les laisse s'exprimer sur cette question-là. Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs. Le voyage.
Regarde ailleurs.
Chemin le plus court pour se découvrir soi.
C'est pas de la poudre aux yeux, il y a vraiment... Enfin, si maintenant, les gens qui vont dans cette zone arrivent à en vivre grâce à l'or qu'ils vont trouver, ou est-ce qu'il y en a qui sont dans la désillusion totale et puis qui rentrent chez eux sans avoir rien trouvé?
Il y a les deux. Il y a les deux parce qu'il y a des gens qui ont fait des véritables découvertes et qui se sont énormément enrichis. Beaucoup même, qui ont construit des maisons, qui ont acheté des voitures, qui ont investi. Donc il y a eu des grosses fortunes qui ont été faites très rapidement. Avec tout ce que ça comporte, le problème quand on gagne énormément d'argent en peu de temps, c'est qu'on a aussi tendance à le dilapider rapidement aussi. Donc voilà, il y en a qui ont su profiter de cet argent pour faire des investissements sur du plus long terme, mais la plupart rentrent les mains pleines, entre guillemets, et flambent avec cet argent-là. Donc en vrai, économiquement, Est-ce que ça porte des... Est-ce que ça va porter les choses sur le long terme? Est-ce que ça va aider les gens sur le long terme? Je ne pense pas. Après, maintenant, on va dire que depuis quelques années, tout ce qui a été à fleur de sol a quand même été ramassé. Donc maintenant, il faut creuser plus profond pour atteindre les filons qui sont plus profonds. Ils forment même à plus de 100 mètres sous terre. Donc là, ça demande plus de moyens, plus de manœuvres, plus de matériel et donc plus d'investissement à la base. Et ça, le petit orpailleur qui n'a pas de sous, autant il pouvait aller acheter sa pelle et sa pioche pour aller gratouiller à côté, autant il n'a pas les moyens d'acheter des matériels d'extraction plus importants. Donc là, on est quand même à un virage où ceux qui continuent dans l'exploitation de l'or au Sahara, ce sont quand même des gens qui ont les moyens. Ça reste des locaux malgré tout. On n'en est encore pas à ce que des multinationales étrangères s'installent pour faire des usines et faire des mines industrielles. On n'en est encore pas là. Peut-être que ça va venir. On est encore dans l'exploitation artisanale. Mais voilà, là quand même, elle est en train de se réorienter vers des gens qui ont quand même plus les moyens, quoi.
Jade, pourquoi t'es rentrée? T'es pas restée là-bas avec ta pelle et ta pioche?
Parce qu'au Niger, c'est quand même un petit peu compliqué quand même.
Je ne connais absolument pas l'Afrique et encore moins le Niger. Pourquoi ? En quoi est-ce que c'est compliqué, conflictuel ou dangereux ?
Bah déjà, un petit tour sur le site du Quai d'Orsay. On voit que tout est colorié en rouge. Donc déjà, bah, c'est sûr que ça n'incite personne à y aller. À savoir d'ailleurs qu'on n'est pas vraiment censé y aller vu que c'est la zone rouge. Et qu'au-delà de nos propres responsabilités, voilà, s'il m'arrive quelque chose là-bas, derrière, c'est au-delà de mes propres responsabilités derrière. Après, dans certains coins, voilà, des choses qu'on entend régulièrement, terrorisme, djihadistes, prise d'otages. Et nous, blancs et français que nous sommes, c'est sûr qu'on est potentiellement une ressource économique importante pour pas mal de personnes mal intentionnées. Donc il faut faire attention à nos déplacements, faire attention à ce qu'on fait, ne pas faire n'importe quoi, n'importe où avec n'importe qui et quand même être bien encadré. D'ailleurs, je n'ai pas pu moi-même me rendre sur les sites miniers. Dans le sens où c'était quand même prévu parce que je m'étais entourée de personnes qui pouvaient m'emmener là-bas, mais ça n'a pas pu se faire parce que quand même sur place il faut savoir ce qu'on fait et pas prendre des risques pour rien, quoi. Ce sont des zones dangereuses et on peut pas prendre le risque comme ça. Donc moi j'ai pas pu aller directement sur les sites, j'ai récupéré des images autrement, par d'autres biais, j'ai envoyé des amis filmer là-bas pour moi parce qu'il y a aussi pas tellement les sites qui sont dangereux, c'est la route pour y aller. Parce qu'il y a du banditisme, bien évidemment. Beaucoup, beaucoup de banditisme, des coupeurs de route qui se disent « Nous, on ne va pas s'embêter à aller chercher l'or. Par contre, on va arrêter ceux qui sont sur la route, qui rentrent avec leur or pour leur piquer. » Donc, c'est vrai que voilà, c'est quand même... Il y a beaucoup de trafic. Là-bas, c'est des endroits où passent énormément de migrants, des armes, de la drogue. Enfin, des endroits un petit peu chauds quand même. Je ne fais pas le choix d'aller dans des endroits chauds ou tendus. Moi, je ne serais jamais reporter de guerre ou tous ces trucs-là. J'aurais super peur. Enfin, je veux dire, c'est pas du tout mon créneau. Je ne vais pas dans des endroits dangereux. Je vais dans des endroits que j'aime. Après, il s'avère qu'il y a des risques. Donc, j'en prends la mesure et je fais en sorte de les minimiser. Mais je n'ai pas le sentiment d'aller dans des endroits qui sont dangereux. Et en tout cas, je n'y vais pas pour ça. C'est pas ça qui me plaît. Moi, ce qui me plaît, c'est le désert, c'est les populations nomades, c'est comment les gens sur place arrivent à sortir, à vivre, quoi, en fait, tout simplement, quoi.
Mais donc, tu pourrais aller en Mauritanie, où le point n'est pas rouge sur le Quai d'Orsay, mais où il est orange. Donc là, tu as aussi du désert, tu as aussi des nomades, mais tu as quand même fait le choix du Niger.
Alors, j'en ai profité. Je suis allée en Mauritanie cette année quand même. Et mon prochain voyage est prévu en Mauritanie aussi. Donc oui, moi je me suis jamais arrêté de voyager dans cette bande sahélo-saharienne. Depuis 2 ans, je suis allée 2 fois au Niger, 1 fois au Tchad, dans le sud algérien, en Mauritanie. Et là, je compte retourner en Mauritanie et je compte bien retourner en Niger en 2019 aussi.
Pour continuer sur un projet vidéo ou complètement autre chose, simplement voyager, retrouver les gens que tu connais et que tu aimes?
Non, j'arrive pas maintenant à me dire que je vais, entre guillemets, simplement voyager. C'est déjà très très bien de voyager, mais maintenant à chaque fois j'oriente mes voyages avec un projet derrière. Si demain je vais faire un trek en Amérique du Sud, parce que ça me botte aussi vachement, si demain je suis en Amérique du Sud, je vais y aller pour faire un trek, pour faire du tourisme. Si je retourne dans n'importe quelle région du Sahara aujourd'hui, c'est aussi pour communiquer là-dessus auprès des autres. Parce que je trouve que le Sahara souffre d'une image assez négative en ce moment à cause de tout ce qui se passe là-bas. Et j'aimerais montrer qu'il se passe plein d'autres choses et que le désert du Sahara aujourd'hui, ce n'est pas que les terroristes, ce n'est pas que Daesh, ce n'est pas que le passage des migrants qui remplissent les bateaux pour finir chez nous derrière. Il y a aussi plein d'autres choses. Et c'est pas bien de focaliser sur un seul truc, quoi. Il faut aussi parler des gens et de tout le reste. Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Et bien, au-delà de leur turban bleu et de leur dromadaire, c'est aujourd'hui les Touaregs, en tout cas ceux que je connais pour moi, ce sont mes amis, ils sont quasiment ma deuxième famille. Comment ne pas être général si on me dit comment définir le Touareg ? Oui, pour moi aujourd'hui, ce sont mes amis du Sahara, c'est un peu ma deuxième famille. Et voilà, moi ce qui me chagrine un peu, c'est qu'il y a quelques années, c'était des destinations à la mode. On voyait le Touareg, l'homme bleu comme on a tendance à le caractériser, sur son dromadaire, un peu prince du désert comme ça. Oui, c'est sympa, mais ce sont des gens, ce sont des hommes, ce sont des pères de famille, ce sont des gens qu'il faut qu'ils travaillent pour subvenir aux besoins de leurs femmes et de leurs enfants, qui ont des projets, qui ont envie de... Donc c'est ça moi qui m'intéresse, c'est l'homme. L'homme derrière le Touareg ou derrière le Saharien ou derrière le Mauritanien. Là, j'ai un prochain projet de film en Mauritanie où justement, je vais m'intéresser à la vie d'un chamelier. Et j'aime à chaque fois rapprocher des humains, quoi, des hommes qui sont derrière.
Mais Touareg, c'est pas lié à une partie géographique du Sahara, c'est pas une langue particulière.
Alors si, après, pour de manière très pragmatique, les Touaregs ont été divisés dans 5 pays du Sahara aujourd'hui. Donc c'est une population qui a été éclatée après le traçage des frontières que nous avons fait là-bas. Donc forcément, avec tout ce que ça comporte de, des fois, revendication de territoire ou de mise à l'écart par leur propre gouvernement. Donc c'est vrai qu'il y a tout un tas de problématiques aussi auxquelles ils font face. C'était des nomades avec leurs troupeaux qui pâturaient de campement en campement en fonction des pluies, en fonction de leurs déplacements par rapport à leurs troupeaux, quoi. Chose qui n'est plus possible aujourd'hui à cause des frontières. Donc voilà, c'était quand même à l'origine une population nomade en déplacement perpétuel. Voilà, chose maintenant forcément qui a tendance à bouger aujourd'hui. Et voilà, mais c'est vrai que je suis un peu partie là-dessus parce que les premières personnes que j'ai rencontrées dans le Sahara étaient les Touaregs. Après là, j'apprends à connaître d'autres populations nomades au fur et à mesure de mes voyages, comme les Peuls par exemple, auxquels j'y connais pas grand-chose, mais qui eux ont gardé une vie assez traditionnelle, pleine de coutumes, pleine de traditions, de chants, voilà, tout un tas de choses auxquelles j'aimerais aussi creuser, me renseigner, peut-être faire des films avec eux plus tard. Mon créneau, c'est vraiment le Sahara, avec particulièrement la population Touareg. Mais là, typiquement, je vais en Mauritanie, donc je vais quitter mes Touaregs. Mais voilà, je quitterai jamais cette région-là, en tout cas.
Parce qu'en Mauritanie, il n'y a pas de Touareg ? Ou de Peul ?
Alors, les Peuls, je vous avoue, je n'en sais rien. Donc, je préfère pas affirmer des choses tant que je ne suis pas sûre. Les Touaregs, non. Alors après, il y en a quelques-uns. Il y en a même quelques-uns en France aussi. Hein, voilà. Mais non, globalement, non. Ce sont d'autres populations. Après, on reste quand même dans des populations nomades sahariennes. Donc, justement, je vais voir quels sont leurs points communs ou quelles sont leurs différences, justement. Un nomade de Mauritanie avec les nomades du Niger, qu'ils soient Touareg ou Haoussa ou Peul ou Maure. Voilà, justement, je suis en pleine quête de savoir un peu quelles sont les différences de vie, de niveau de vie, un peu dans tous ces coins différents du désert.
Pour revenir à quelque chose d'un peu plus terrestre et matériel, donc tu es réalisatrice, est-ce qu'on arrive à vivre de ce métier aujourd'hui ou est-ce que tu fais autre chose à côté ?
Je ne fais pas autre chose à côté parce que c'est un travail qui demande trop de travail. Il y a à la fois l'écriture des films, il y a à la fois s'occuper de la diffusion des films déjà faits. Donc c'est quand même beaucoup de travail. Je ne vois pas comment je pourrais avoir un job alimentaire à côté. C'est aussi énormément de social, énormément de liens à entretenir. Et puis faire un film sur un sujet, c'est bien, mais moi, leur paillage, il y a 2 ans, je n'y connaissais mais absolument rien. Je ne suis pas géologue, je ne suis pas du tout dans ces questions-là. Donc c'est un gros, 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 gros travail de recherche aussi en amont. On passe des heures à se renseigner sur le sujet, sur la question, à discuter, à ouvrir des bouquins, à fouiller sur Internet. C'est un gros boulot. Après, il y a un gros travail d'écriture, il y a le tournage, il y a la post-prod, c'est un gros boulot. Donc je ne vois pas comment je pourrais travailler à côté. Maintenant, je ne vis pas non plus de mes films. J'espère que j'en vivrai, c'est le but en tout cas. Après, je pense que c'est un peu compliqué avec un film. J'ai fait mon premier film aussi dans le cadre du Grand Bivouac il y a 3 ans. C'était un premier film un peu scolaire, avec des erreurs, avec des choses que j'ai essayé de refaire dans le deuxième. Le deuxième, malgré tout, même s'il vient de sortir, j'ai déjà un œil un peu critique dessus. Et je me dis déjà que pour le troisième, il va falloir que j'améliore ça, que j'améliore ça, que j'améliore ça. Donc voilà. Mais à chaque fois, c'est un peu le nerf de la guerre. Trouver les sous pour produire son film. Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs. Le voyage.
Regarde ailleurs.
Chemin le plus court pour se découvrir soi.
En fait, j'ai l'impression qu'on est vraiment dans des coins où on doit, ne serait-ce que là pour la Mauritanie, convaincre les gens qui peuvent y aller sans problème. Et ça, malheureusement, le Sahara, encore l'image de... Voilà, moi, à chaque fois que je pars là-bas, on me dit mais tu es folle, mais c'est trop dangereux, tu vas te faire enlever. J'entends tout. J'entends même des fois des choses mais complètement aberrantes, quoi. Donc, c'est beaucoup de rabâchage pour dire aux gens, attendez, effectivement, le désert, aujourd'hui, le Sahara, il y a des endroits un peu compliqués, mais il y a des endroits où on peut aller sans problème. Mais ça, les gens, il faut l'entendre. Il faut un peu le rabâcher, entre guillemets, quoi. Donc, moi, je suis en propagande, je suis en mission. Et cette mission, j'arrive à la faire dans les festivals ou en tout cas quand je rencontre des gens. C'est en festival que j'arrive à parler de ça et à dire aux gens, regardez, vous m'avez en face de vous, je suis une jeune femme blanche et moi, j'y vais. Donc allez-y, programmez-vous. Maintenant, il y a une relance du tourisme au Sahara, donc c'est le moment, vous pouvez y retourner, n'ayez pas peur, allez-y, ça va bien se passer. Ça, en festival, c'est efficace. La télé, c'est bien, je ne crache pas dessus, mais loin de là. Le but pour moi serait faire les deux, d'avoir une diffusion télé qui m'apporte un peu d'argent et de la visibilité aussi, il faut le dire, d'un côté, mais je serai toujours en festival, là, à défendre mes projets avec mes amis mauritaniens, Touareg, qui sont là à côté. Pour parler de tout ça, moi je suis un intermédiaire en fait entre eux et le public français. Donc il faut que je sois là pour en parler et il faut qu'ils soient là eux aussi physiquement pour en parler. C'est important.
Et pourquoi est-ce que c'est important de relancer le tourisme dans cette partie du monde ?
Ben parce que il n'y a pas tellement d'autres activités économiques là-bas pour les gens, quoi. Il y a bien des sociétés. Enfin là, je reprends le cas du Niger. Il y a l'exploitation, il y a Areva, l'uranium. Donc il y a des entreprises là-bas qui emploient des gens. Mais depuis quelques années, le cours de l'uranium a chuté. Ils devaient ouvrir des usines supplémentaires qui auraient redynamisé l'économie locale, qui auraient créé de l'emploi pour les jeunes de cette région en difficulté. Le cours de l'uranium ayant chuté, on ajourne l'ouverture de la mine. Donc c'est des gens désœuvrés qui n'ont plus rien à faire. Beaucoup de gens, en tout cas de mes amis, sont des artisans Touareg qui vivaient pour la plupart des bijoux qu'ils créent, de l'artisanat en cuir qu'ils font, des guides qui baladaient les touristes dans le désert, des chameliers, des cuisiniers, des conducteurs de véhicules. C'est toute une dynamique, toute une économie que le tourisme ramène. Et il y a quelques années, quand le tourisme était bien au Sahara, beaucoup de gens, beaucoup de locaux arrivaient à vivre bien, en tout cas décemment, quoi, de cette activité touristique. Aujourd'hui, il n'y a pas tellement d'autres perspectives pour ces gens-là, quoi, pour ces gens du désert qui n'ont pas d'autres activités professionnelles que ça, à part leur paillage depuis peu.
Jade, super. Merci à toi de nous avoir un peu éclairci, amené de l'info sur ce qui se passe dans cette région du monde qui finalement reste encore très peu connue, en tout cas dans les grands médias. On ne montre que le côté de ce qui ne va pas, alors que tu es là pour en faire le porte-parole et nous dire que non, c'est bien d'y aller.
Exactement, c'est tout à fait ça. Après voilà, il y a une vingtaine d'années, le Sahara, ça faisait fantasmer tout le monde y allait. Quand on discute avec les gens, c'est hey, « mais oui, mais j'y suis allée aussi dans les années 80 et tout. » Je dis « bah moi j'y étais il y a 6 mois. » Et les gens me disent « ah bon ?» Et oui, les choses sont encore possibles. Et voilà, c'est quand même, oui, c'est le désert du Sahara. Et il n'y a pas que que des migrants ou que des terroristes. Il y a énormément de belles choses et elles valent la peine d'être dites, vues et vécues.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.